de la rédaction. Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Patrick Singer, le président de la communauté juive d'Erstein et propriétaire de la maison d'art populaire alsacien. Ça se situe à Buftsheim, sur laquelle une mezouza va être posée le 11 juin prochain. Patrick Singer, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir, mais je vous en prie.
Merci de m'accueillir, à vous aussi.
Alors un petit point d'abord sur la communauté juive d'Erstein. Les premiers juifs à Erstein arrivent en 1850. La synagogue, elle est érigée en 1882. Aujourd'hui, le gardien de cette synagogue, c'est vous.
Oui, malheureusement, je ne suis plus que le gardien de la synagogue d'Erstein et du cimetière d'Erstein. Dans le temps, nombreuses familles vivaient sur Erstein et malheureusement, la Deuxième Guerre est passée par là. Et malheureusement, il y en a peu qui sont revenus. La choule de l'époque a été détruite et reconstruite en 1958. Aujourd'hui, nous sommes encore une quinzaine de membres, mais la plupart vivent sur Strasbourg et que trois familles qui vivent encore sur Erstein.
Il y a des offices encore à la synagogue ?
Alors, pour les Shabbats, non, évidemment, c'est très compliqué. J'organise de mai à septembre des petits offices le dimanche matin pour faire un petit break, un breakfast et puis une petite conférence. Et j'ouvre au public au mois de juillet deux fois et au mois d'août deux fois également. Et de temps en temps, quand le cœur me dit, j'organise un Rosh Hashanah à la choule et les repas chez moi.
Alors, cette synagogue a été pillée de son mobilier, il a été vendu aux enchères par les nazis. Aujourd'hui, vous avez réussi à rassembler du mobilier, à remettre des rouleaux, à remettre une synagogue, on va dire, avec son patrimoine originel ?
Ah, c'est pas moi, évidemment, c'est mes aïeux, de la communauté donc, des années 58, la jeunesse juive d'Erstein, qui a tout réuni avec des dons, etc. Effectivement, on a une belle petite choule en parfait état, avec l'archinthe, avec évidemment tout plein de rouleaux, avec, je dirais, excusez-moi l'expression, tout l'équipement pour faire un office.
Patrick Singer, donc je le disais, vous êtes président de cette communauté d'Erstein, cette communauté juive d'Erstein, qui aujourd'hui rassemble quand même quelques familles encore, hein, vous disiez une quinzaine de familles, même si tout le monde ne vit pas sur place. Vous vous sentez dépositaire de cette mémoire de la vie rurale à Erstein, de la vie juive. Alors vous êtes originaire, hein, vos aïeux sont d'Erstein. Vous sentez dépositaire de cette vie juive où tout le monde vivaient ensemble, où il y avait une harmonie entre les communautés religieuses ?
Parfaitement, et je garde de très très bons souvenirs d'enfance, où effectivement c'était vraiment la vie juive à la campagne, où on était des juifs traditionnels, hein, on n'était pas des orthodoxes, très souvent les jeunes, on nous apprenait des cours de religion, mais on ne savait pas ce qu'on apprenait, malheureusement, mais on était bien. On s'entendait bien, il y avait une très belle relation juif-chrétien, un respect, une amitié et des affaires.
Vous alliez à l'école du village ?
Absolument, avec le Rav Erfurth qui nous faisait des cours de religion. D'abord c'était le jeudi, après le mercredi, une fois à Erstein, une fois à Benfeld.
Alors, vos parents, vos grands-parents, peut-être pas vos parents, étaient marchands de bestiaux. On parlait juste avant cette interview de l'importance de cette profession. La personne qui amenait les nouvelles d'un village à l'autre, qui était dépositaire également de l'argent de chacun. L'importance de ce métier. À quel degré ça remonte, cette profession de marchand de bestiaux ?
Alors, dans notre famille, nous étions cette génération de marchands de bestiaux et moi-même, j'ai fait cette activité dès mon jeune âge. Et après, nous avons, avec papa, fait le marchand de bestiaux et l'agent immobilier. Effectivement, le marchand de bestiaux, à l'époque, était le marchand de bestiaux, le banquier, le médiateur entre les catholiques et les protestants, parce que c'était parfois très très chaud, et en même temps l'informateur de nouvelles d'un village à l'autre, parce que tout se faisait à pied, hein, et le marchand de bestiaux faisait le décompte une fois par an par rapport aux achats après les récoltes, hein, pour faire le décompte des affaires, donc il faisait banquier également.
Ça fait partie également, ça, du patrimoine immatériel, ces anciennes professions. Alors, non, évidemment, ça va faire un lien après avec cette maison d'art populaire que vous avez créée à Buftsheim. Mais ces métiers-là, ça fait partie du patrimoine immatériel d'Erstein, par exemple.
Oui, bien sûr. Et puis, quand j'ai l'occasion maintenant avec la maison d'art populaire que j'ai créée donc, sur Buftsheim, et que je rencontre des anciens paysans ou des gens qui me connaissaient ou qui connaissaient papa, ça remet des émotions, on revit des bons moments. Et j'ai connu ça dans ma tendre jeunesse. Et je crois que j'étais tout de suite marqué, effectivement, par cette notion où je me suis rendu compte très rapidement que c'est une profession qui allait disparaître et qu'on va perdre tout un pan de mur de tradition judéo-chrétienne.
Vous êtes très attaché alors au stigma du passé, que ce soit évidemment des choses matérielles, immatérielles, et vous avez rassemblé dans un grand corps de ferme hein, à Buftsheim, corps de ferme familial alors qui remonte au XVIe siècle.
Alors, il n'est pas du tout familial. Si vous voulez, dès mon jeune âge, ça fait à peu près 40 ans que je chine. Et comme je vous l'ai dit, j'ai eu cette passion très rapidement et j'ai stocké dans différents endroits. Pendant de nombreuses années, et il y a 25 ans, j'ai eu l'opportunité d'acheter ce corps de ferme. Et très rapidement, je me suis dit, bah, ça y est, je peux réaliser mon rêve, ma passion qui va se mettre en place. J'ai mis à peu près 20 ans de travaux. Et donc c'est vraiment le corps de ferme, petite maison, parce que c'est dans le Ried, le Ried étant la région qui va de Strasbourg à Markolsheim, le long du Rhin, qui a été très préservée, mais qui est en réalité une région très pauvre. Les paysans étaient très pauvres, donc petite maison et avec des matériaux pauvres, parce que c'était des maisons à colombage et du sapin, surtout par rapport aux Kosersberg où elles sont beaucoup plus grandes.
Et en chêne, c'est vrai.
Donc ce corps de ferme a cet avantage que c'est en réalité une maison, mais en réalité c'était au départ deux maisons. Un séchoir à tabac, une porcherie, une grange et un étable, le potager et derrière le verger. Le tout sur 3500 mètres carrés. Et j'ai commencé à rénover la maison parce qu'elle était encore dans son jus, comme on dit, avec l'évier et la pompe à eau et évidemment la cuisinière à bois, mais pas de WC, pas de confort ni rien. Donc j'ai commencé par ça et petit à petit j'ai gardé les bâtiments mais j'ai changé leur destination.
Vous vivez dans cette maison également ?
Parfaitement.
Donc il y a une partie habitation et une partie exposition. Alors vous parliez de la rénovation, vous vous êtes servi des matériaux de l'époque. Alors on parle beaucoup aujourd'hui pour le torchis de chanvre qui a des jolies qualités énergétiques. Vous avez fait attention à cela ou vous avez rénové comme on rénove avec de la brique?
Je suis un puriste dans la culture et la religion juive traditionnelle. Donc je ne pouvais pas passer au modernisme et juste dire je fais avec les matériaux de nos jours. Donc j'ai essayé de préserver effectivement dans les matériaux qu'on faisait à l'époque pour garder son charme et pas forcément chercher l'énergie, mais chercher le charme avant tout et pas dénaturer les choses.
Alors, on parlait de votre façon de chiner, de chercher des objets que vous avez accumulés depuis une quarantaine d'années maintenant. Vous aviez, vous, déjà l'idée d'un musée futur, ou alors c'était juste pour que tout ça ne se perde pas, d'accumuler chez vous en attendant?
Non, c'était en réalité c'était cumulé, les deux idées étaient cumulées. C'était un, de préserver les choses et de dire un jour je ferai ce musée. Alors j'aime pas la notion de musée parce que musée c'est une thématique et on va jusqu'au bout, alors que chez moi c'est un ensemble de thématiques. Le séchoir à tabac est devenu salle de faïence, j'ai recréé une boucherie, une laiterie, une forge, une boulangerie, une salle de poterie.
Un petit écomusée en fait.
Alors l'écomusée c'est des bâtiments. Alors que chez moi, il n'y a pas que les bâtiments, c'est aussi les objets. Et dans la grange, j'ai transformé, si vous voulez, à l'extérieur, c'est plutôt le monde extérieur. Et à l'intérieur, je voulais, dans la grange, je voulais montrer comment on vivait dans le temps. Donc, il y a la cuisine, la stoupe, la salle des armoires, la salle du ride, la salle du kelch, etc., etc.
différentes salles, donc ça représente les métiers également, beaucoup d'objets hein, liés au métier certainement qu'on trouvait dans le RIDE également, mais aussi des salles de classe, des ustensiles de cuisine. Vous, l'idée, c'était d'avoir des objets, on n'est pas dans l'idée d'objets d'antiquité, mais des objets populaires,
tout à fait,
dont tout le monde se servait.
Ah bah c'est le, si vous voulez, ma plus grosse satisfaction et ma plus grande émotion, c'est quand les gens viennent à Maison d'Art Populaire, c'est de dire eh ben ça j'ai connu, ça j'ai vécu, ça j'ai vu chez mes parents, ça j'ai vu chez mes grands-parents. Et comme vous le dites, c'est effectivement, c'est pas des objets de valeur. Le cumul fait que c'est une belle réunion d'objets, mais c'était surtout pour dire bah c'était des outils ou des objets qu'on utilisait dans la vie de tous les jours, et il n'y a pas très très longtemps, hein, parce que si vous voulez, il y a des objets qui remontent à 1830, mais la plupart c'est entre 50 et les années 75.
Alors, votre méthode, parce que moi, alors voilà, en toute honnêteté, je suis une chineuse compulsive. Comment est-ce que vous faites ? Vous levez tôt le dimanche matin, vous partez dans les villages, vous allez dans les vies de maison, par exemple ?
Alors, les vies de maison, c'est quelque chose de récent. Les dimanches matins, c'est tôt, sur les marchés aux puces, les chineurs, les brocanteurs, et compte tenu de ma profession, j'ai eu aussi l'opportunité de rentrer dans des corps de ferme ou dans des vieilles maisons, et où j'ai pu également acheter. Mais effectivement, l'essentiel de mes objets trouvés, c'est sur les marchés aux puces.
Les gens ont conscience de ce qu'ils ont chez eux, dans leur grenier ou dans leur cave ?
Pas du tout. Pas du tout.
Et si pour eux, c'est les vieilleries.
Et si vous voulez, on est arrivé à deux stades. Il y a 30, 40 ans, on se débarrassait. Aujourd'hui, l'Alsace a encore une chance, c'est qu'on a une richesse exceptionnelle. Et aujourd'hui, si vous voulez, les mamies qui décèdent, les petits-enfants ou les enfants disent « qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse ?» Donc le marché aux puces, c'est la dernière station avant la déchetterie.
Oui. C'est triste.
C'est triste parce qu'il y a tout un patrimoine qui, par rapport à d'autres régions où il n'y a plus rien du tout, en Alsace, il y a encore énormément de choses.
Et dans le, on va dire, dans la valorisation des objets, on sait que maintenant, dans la plupart des déchetteries, on n'a plus le droit de récupérer. C'est-à-dire qu'il y a des...
Tout à fait.
Et effectivement, il y a même des livres, ça part à la benne et on a interdiction de récupérer des objets qui ont été posés et de leur donner une seconde vie.
C'est un drame pour les chineurs.
C'est vous faisiez ça aussi à la déchetterie ?
Oui, à l'époque où on avait le droit, je zonais aussi un peu pour récupérer l'une ou l'autre chose, oui.
Vous arrivez, vous, à quantifier déjà le nombre d'objets et après la valeur de tous ces objets accumulés au fil des ans ?
Alors, on a fait un inventaire avec des amis, je me situe actuellement à 20 000 pièces.
Et vous avez une idée de ce que ça vaut au fur et à mesure des années ?
Alors, individuellement, j'allais dire, c'est des objets qui ont peu de valeur. J'ai pas cherché à faire un rassemblement d'objets de fortune, pas du tout. Mais évidemment, compte tenu des 20 000 objets, ça représente un certain capital. Mais je l'ai pas fait dans cet esprit-là. Je l'ai fait effectivement pour marquer le passé, pour transmettre également à la génération montante, et on est déjà en contact parce que tout doucement la Maison d'Art Populaire alsacien connaît déjà une bonne réputation, pardon. Et j'ai déjà eu des contacts avec des écoles, hein, et pourquoi pas peut-être les écoles juives, pour montrer qu'est-ce qui se passait dans le temps et la vie d'autrefois.
Il y a des dons également, il y a des gens justement maintenant qui sont au fait de votre musée, enfin de votre maison d'art populaire, on ne va pas dire musée, hein, on en a parlé en début d'interview. Il y a des personnes qui viennent justement pour ne pas jeter.
Alors, j'ai depuis quelques semaines des gens qui ont visité la maison d'art populaire et qui, après la visite, m'ont dit « Écoutez, Monsieur Singer, est-ce que je peux vous apporter des choses ?» Alors, je suis toujours très prudent parce que je ne voudrais pas que ça se transforme en déchetterie non plus.
Vous n'êtes pas Emmaüs, non.
Voilà. Et je leur pose des questions. Et effectivement, pas plus tard que hier, on m'a ramené une collection de sacs de mariés et aussi des sacs en toile de chute pour mettre les grains, etc. Quelque chose juste d'exceptionnel qui date de 1850. différentes. Et la première fois que j'ai vu ce sac en couleur, parce qu'en général c'est noir et blanc, avec des motifs, des dessins et des initiales et des noms de famille, mais là c'est carrément en couleur.
Alors on va parler évidemment du judaïsme qui prend sa place dans cette maison d'art populaire. De quelle façon vous avez un coin, une pièce où vous avez mis les objets qui sont liés au judaïsme rural là, en l'occurrence?
Voilà, alors ça a commencé par une première salle où je dédie cette salle pour Alphonse Lévy qui est un illustrateur bien connu et où il y a des très beaux objets dans le musée de Marmoutier. Et petit à petit, la collection s'est agrandie. Donc, j'ai une deuxième salle où j'appelle ça l'objet de culte juif, avec beaucoup de Shabbos lampes, hein, donc les lampes juives, des manteaux de Torah, des plats de céder, des plats en étain, etc. Et mon idée était toujours de recréer une choule, synagogue rurale. Et je me suis dit, j'espère un jour y arriver. Et j'ai eu l'opportunité, compte tenu de ma profession de promoteur immobilier, d'acquérir un bien sur Colmar. Et on a rasé la maison, mais à côté, il y avait une très belle grange qui était en réalité une menuiserie. Et je fais aussi un peu de sauvegarde du patrimoine à Colombage. Et du coup, j'ai dit, ce bâtiment, je vais le démonter et le remonter sur Bofsheim. Et il se trouve qu'en même moment, j'ai eu la chance que la mairie de Phalsbourg, qui avait eu, elle, ce bâtiment, donc la synagogue, par une vente du consistoire lorrain, il y a une dizaine d'années, et qui maintenant veut le transformer en médiathèque, voulait vendre tous les objets de cette synagogue. Et donc, pour moi, c'était du vrai bonheur. J'ai pu reprendre tous les bancs, l'arche sainte, les luminaires, le banc du rabbin, les bancs de l'administration, des lampes, des rideaux, même des documents, j'allais dire, des écrits du président. Et il se trouve que le fils du président, qui est Francis Moses, j'ai lui ai parlé l'autre jour et j'ai des documents qui allaient aux offices, qui étaient ratan, etc., etc. Donc c'est vraiment une partie vivante que j'ai retransmis de Phalsbourg sur Bofsheim.
Extraordinaire, comme quoi ça tient à peu de choses.
Voilà.
Et vous avez continué après à alimenter, à trouver des objets.
Tout à fait.
À refaire vivre certains rites, peut-être
alors,
aussi.
Alors évidemment, les objets juifs, ça se trouve pas aux puces. On en trouve exceptionnellement,
c'est vrai.
Mais c'est plutôt des ventes aux enchères spécialisées sur du judaïka et essentiellement sur Paris.
Ce sont des personnes également qui font des dons aux décès d'anciens et...
Soit des dons, soit des ventes, proprement dit. Vous avez bien vu récemment la Bible la plus vieille du monde qui s'est vendue aux enchères. Voilà, c'est des ventes très, très spécialisées, très fermées.
Patrick Singer, vous êtes, je rappelle, président de la communauté juive d'Erstein et vous êtes venu nous parler de la maison d'art populaire. Elle est à Bofsheim et vous allez mener là le 11 juin, donc le public est invité. Vous allez poser une mezouza à l'entrée, j'imagine, de la partie juive de cette maison de Bofsheim.
Vous avez tout à fait raison. Elle va être posée, comme toute mezouza, sur la porte de la synagogue. Alors ça aussi...
C'est un acte sacré, ça. C'est alors, un rabbin alors, qui va intervenir.
Alors justement, c'est là où la vie n'a pas de hasard. Il se trouve qu'en septembre, la maison Lalique, par son créateur Irma Orenstein a créé une mezouza. C'est une magnifique mezouza et Irma Orenstein est architecte et designer qui habite actuellement en Israël et qui a rencontré la maison Lalique pour lui proposer ce dessin. Et il y a un lien, si vous regardez bien, Lalique Art Avingen en Alsace. Et moi, de mon côté, je ne me compare pas du tout à Lalique, loin de là, mais art populaire alsacien aussi. Et donc, j'ai eu le privilège de rencontrer la maison Lalique. Et évidemment, l'idée a jailli de faire cette inauguration et de la pose de cette fameuse mezouza le 11 juin. Et entre guillemets, on inaugurera officiellement la maison d'art populaire. effectivement, il y aura du monde politique, du monde religieux pour poser symboliquement cette mezouza. Et mon idée, c'est de faire de temps en temps un office dans cette synagogue. Et pourquoi pas, pour des petits mariages un peu originaux à la campagne, je ne veux pas faire de la concurrence à la grande synagogue de Strasbourg, mais pour un petit mariage sympathique, comme on voudrait le faire.
Il ne faudrait pas sacraliser l'endroit, en fait, parce que là, on est plutôt dans une reconstitution. Est-ce que le lieu aurait vraiment fonction, pourrait avoir synagogue?
Absolument, parce que bon, ben, j'ai un Sefer Torah kasher, j'ai des yads, oui. J'ai les manteaux, j'ai les mapotes, des bancs. On peut faire un office, il n'y a pas de souci.
Donc ce serait d'imaginer de pouvoir accueillir des petites cérémonies.
Un petit souhait de dire cette petite flamme qui reste encore, pourquoi pas de temps en temps dire, eh ben voilà, il y a encore un office rural comme dans le temps qui se faisait à la campagne.
Ça pour vous, ça prendrait lien avec votre fonction de président de la communauté israélite d'Erstein, avec ce musée d'art populaire et cette reconstitution de petites choules. Et vous, ce que vous êtes, est-ce que vous disiez fils, petit-fils de marchand de bestiaux, très implanté dans sa communauté à Erstein, traditionnaliste? Alsacien, on l'entend, hein, c'est quand même des choses, des valeurs qui vous portent également. Ça ferait le lien, tout ça?
Absolument, et puis ça serait aussi un petit clin d'œil à la famille, aux aïeux, et puis à tout ce monde qui a existé, qui ne pouvait pas exercer comme il voulait, vivre où il voulait, et être un peu décalé à la campagne, et quand même vivre son judaïsme. Et parallèlement à ça, compte tenu que je suis très libéré et libéral, j'ai fait aussi un petit coin, entre guillemets, petite église, hein, pour montrer effectivement cette vie de judéo-alsacien où il y avait vraiment un respect entre deux communautés, la communauté chrétienne et la communauté juive.
Alors cet endroit, la musée, la maison d'art populaire alsacien à Bouffsheim, elle est ouverte au public.
Tout
comment ça se passe? Vous avez des journées d'ouverture particulières? Vous avez du personnel qui peut accueillir ou c'est vous qui vous collez?
Alors c'est encore une originalité, c'est pas un endroit qu'on visite librement. C'est uniquement sur visite guidée. Commenter, donc par moi-même.
Donc il faut réserver, appeler.
Voilà, il faut réserver, appeler. C'est le dimanche après-midi. La première visite, c'est à 2h et le deuxième à 16h. Après, j'organise également pour des groupes, soit pour une raison familiale, anniversaire ou autre, ou pour professionnels, ou des amis tout simplement, des groupes d'une trentaine de personnes, où on fait la visite et un repas par la suite à la bonne franquette, style barbecue, etc.
Ah oui, donc c'est une vraie grosse activité en plus que vous menez au-delà de
vos
fonctions.
C'est pas une activité, c'est une passion.
C'est votre passion. Voilà. Ça vous laisse le temps de chiner encore?
Ouais, ouais. on arrive, on y arrive. Mais non, on devient de plus en plus difficile parce que quand on a autant de pièces, j'allais dire, on est plus pointu.
Oui, j'imagine bien. Alors moi, j'aimerais bien, il nous reste une petite minute, évoquer la mémoire de votre sœur, Brigitte Kahn, qu'on a bien connue ici dans les studios de Radio Judaïka. Elle vient nous voir au moins une fois par an avec sa verve et son dynamisme. Elle a connu, vous, cette maison d'art populaire. Elle c'est quelque chose qu'elle plébiscitait ou elle vous accompagnait peut-être?
Excusez-moi, mais là, vous me touchez. Parce que j'aurais bien aimé qu'elle soit là aussi.
Ce 11 juin. Malheureusement, elle nous a quittés il y a 2 ans, jour pour jour. Et oui, elle a connu cette évolution. Elle m'a même dit de temps en temps, Patrick, t'es vraiment, vraiment un fou. Mais tellement passionné.
On reconnaît bien la fougue de Brigitte Kahn parce que elle aussi une sacrée fougue. Elle lâchait jamais le morceau jusqu'à la fin des actions qu'elle a menées jusqu'au bout. Et donc on voulait saluer sa mémoire parce que c'est une femme qu'on a beaucoup appréciée ici.
Je vous remercie d'avoir fait ce petit clin d'œil.
Patrick Singer, donc président de la communauté juive d'Erstein, président de cette maison d'art populaire alsacien, enfin, je veux dire propriétaire plutôt, parce qu'on sent que voilà, c'est vos bébés là, et que vous mettez à la disposition du public. Et donc je rappelle à nos auditeurs, le 11 juin, c'est la pause de la Médouza. Vous avez une heure précise ?
À 14h.
C'est à 14h et c'est à Bouffsheim. Merci Patrick Singer d'être passé nous voir.
Je voulais juste rajouter un petit mot, si vous permettez. Si vous faites maison d'art populaire alsacien, vous voyez que la contraction, ça fait MAPA. Et la MAPA, eh ben, c'est un petit, hein, quand il rentre dans la communauté. Donc c'est un petit clin d'œil pour dire, eh ben, voilà, c'est un bébé qu'on commence, et puis l'avenir nous dira.
Vous Merci. Avez bien fait de le rajouter.
Merci de votre accueil et à bientôt.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction. Valérie Vial.